C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Et pour repartir dans la seconde partie de cette émission, je vous propose d'écouter un extrait du conte Le Chat Noir, lu ici par Jean Deschamps. Un conte dans lequel le narrateur inflige les pires supplices à un chat, comme par exemple de lui faire sauter les yeux d'un coup de canif, ce chat qui pourtant lui donnait les marques d'affection les plus vives. Écoutez.
Cependant, le chat guérit lentement. L'orbite de l'œil perdu présentait, il est vrai, un aspect effrayant. Mais il n'en parut plus souffrir désormais. Il allait et venait dans la maison, selon son habitude. Mais, comme je devais m'y attendre, il fuyait avec une extrême terreur à mon approche. Il me restait assez de mon ancien cœur pour me sentir d'abord affligé de cette évidente antipathie de la part d'une créature qui jadis m'avait tant aimé. Mais ce sentiment fit bientôt place à l'irritation, et alors apparut, comme pour ma chute finale irrévocable, l'esprit de perversité. De cet esprit, la philosophie ne tient aucun compte. Cependant, aussi sûr que mon âme existe, je crois que la perversité est une des primitives impulsions du cœur humain, une des indivisibles premières facultés ou sentiments qui donnent la direction au caractère de l'homme. Qui ne s'est pas surpris 100 fois comme étant une action sotte ou vile, par la seule raison qu'il savait devoir ne pas la commettre? N'avons-nous pas une perpétuelle inclination, malgré l'excellence de notre jugement, à violer ce qui est la loi, simplement parce que nous comprenons que c'est la loi? Cet esprit de perversité, dis-je, vint causer ma déroute finale. C'est ce désir ardent, insondable de l'âme, de se torturer elle-même, de violenter sa propre nature, de faire le mal pour l'amour du mal seul, qui me poussait à continuer et finalement à consommer le supplice que j'avais infligé à la bête inoffensive. Un matin, de sang-froid, je glissai un nœud coulant autour de son cou et je le pendis à la branche d'un arbre. Je le pendis avec des larmes plein mes yeux. Avec le plus amer remords dans le cœur, je le pendis, parce que je savais qu'il m'avait aimé et parce que je sentais qu'il ne m'avait donné aucun sujet de colère. Je le pendis parce que je savais qu'en faisant ainsi, je commettais un péché mortel.
La compagnie des auteurs. Henri Justin, cette nouvelle de Poe dont on vient donc d'écouter ensemble un extrait, Le Chat Noir, c'est une nouvelle sur la perversité. Je crois que le mot perversité, qui a justement été mal traduit par Baudelaire, qui décidément n'y connaissait rien, est très important pour Poe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi c'est un concept central chez lui?
Disons d'une façon générale, perversity, perverse. Comme en latin, ça veut dire qu'il se retourne. C'est la contradiction. Ceci étant dit, donc il y a un contresens de Baudelaire général, ce qu'on avait là, dans d'autres contes. Mais Le Chat Noir est quand même un cas spécial où peut-être Poe s'exprime davantage. Après tout, c'est un homme marié, il a un chat, etc.
Il est alcoolique comme le narrateur.
Il est alcoolique comme le narrateur. C'est aussi un conte où il y a des émotions, au moins des références religieuses, ce qui est quand même exceptionnel, alors que Baudelaire, lui, ça lui plaît, dès que c'est le péché, c'est dans son vocabulaire. Ça arrive, je sais pas, mais ça dépend des textes, c'est pareil, là, il a choisi peut-être d'être plus proche de lui-même, ça c'est pas sûr, mais probablement d'une certaine façon. Et donc là, au fond, Baudelaire, je dirais, ne se trompe peut-être pas en traduisant perversité cette fois-là. Et c'est un conte glaçant, il faut reconnaître. Moi, je vous dis, en général, j'aime Poe pour sa brillance, son équilibrisme intellectuel, mais Le Chat Noir...
Oui, mais vous avez dit tout à l'heure que Poe, c'était une machine à modéliser de la psychologie, de la psyché. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ce personnage dont on vient de dire qu'il lui ressemble peut-être un petit peu, qui fait ses atrocités sur ce chat?
Justement.
Et pas que sur le chat d'ailleurs.
Justement, dans l'introduction du Chat Noir, il dit qu'il va nous parler d'événements qui sont domestiques et très étranges. c'est-à-dire heimliche, unheimliche. Enfin, il le dit pas en allemand, mais c'est bon, peu importe l'anglais pour l'instant. C'est ça, hein, domestique et puis étrange, wild, je crois. Et il continue, personne va y croire. Moi-même, j'ai du mal à vous l'expliquer, j'ai du mal à vous le raconter. J'espère qu'un jour, et Marie Bonaparte dira, il pressent Freud, il appelle Freud. Mmh. Et c'est ahurissant, c'est évident. Mmh. J'espère qu'un jour, quelqu'un à l'esprit plus racine, plus calme, etc.
J'ai la citation, si vous la voulez.
Oui.
Peut-être se trouvera-t-il quelque intelligence qui réduira mon fantasme à l'état de lieu commun, quelque intelligence plus calme, plus logique et beaucoup moins excitable que la mienne, qui ne trouvera dans les circonstances que je raconte avec terreur qu'une succession ordinaire de causes et d'effets naturels. C'est tout de même assez incroyable.
C'est assez incroyable, d'autant plus que quand on regarde dans Freud et qu'on relit l'essai qui a été traduit et malheureusement en français inquiétante étrangeté, c'est plutôt une inquiétante familiarité, Freud dit en préambule, je dois dire qu'il y a très longtemps que je ne l'ai pas éprouvé. Je suis très calme avec ça. Mais enfin voilà, je vais vous expliquer. Donc il a l'air franchement de répondre à Poe. On sait aussi qu'il avait les œuvres complètes de Poe dans sa bibliothèque, au moins à Londres, puisqu'on nous explique ça quand on visite le musée Freud à Londres. Donc on a quasiment l'impression que Freud renvoie l'ascenseur à Poe.
Donc dans cette nouvelle, le narrateur qui donc pend le chat, le pend avec des yeux pleins de larmes, c'est ce qu'il nous explique, et c'est comme s'il y avait une incapacité chez ce narrateur à la fois à aimer ce chat, puisqu'il le pend, et en même temps à ne pas l'aimer, puisqu'il le pend les yeux pleins de larmes. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que c'est une métaphore de quelque chose?
Non, je ne sais pas. C'est le conte où je dirais que je suis pris affectivement. Je crois que c'est peut-être le seul. Et là, je renonce. Je n'ai pas d'explication. Je signale que dans Todorov, son livre sur le fantastique, il dit, il n'y a pas de fantastique dans Poe, sauf le chat noir. Je crois qu'il y a une exception du black cat, du chat noir.
Alors, est-ce que c'est une nouvelle qui vous fait peur? Et est-ce que, de manière générale, Poe fait peur à la lecture, selon vous?
Pour moi, jamais. J'ai toujours été étonné quand je dis que je travaille sur Poe. Oh là là, j'espère que vous ne lisez pas ça le soir. Moi, il m'exalte.
Quelle nouvelle en particulier? Et comment vous exalte-t-il?
J'ai envie encore de prendre un exemple. Les exemples les plus extraordinaires que j'ai vécu, je crois, c'est dans Les Mœurs de Harry Morgue. Madame d'Espanay, on la retrouve dans une cour, la tête presque complètement tranchée. Et dans un effort pour la soulever, la tête se détache du corps. Mais en anglais, c'est in an attempt to raise her. To raise her. Écoutez ça bien. Raise her, to raise her, raise her.
Rasoir aussi.
C'est le rasoir. C'est le rasoir qui a commencé par étrancher la tête. Et alors là, moi, je sais quand j'ai vu ça, j'ai eu de l'électricité dans le cerveau ou le cervelet, je sais pas, j'ai été obligé de me lever, de faire quelque part dans la chambre et de revenir au travail, vous voyez?
Compagnie des auteurs sur France Culture. Au fond, je vais me risquer à une hypothèse avec vous, Henri Justin. Si vous n'avez pas peur de Poe, c'est parce que vous sentez que Poe, c'est avant tout de l'intelligence. Et du coup, ça met à distance quand même la peur, l'intelligence. C'est ça?
Tout à fait.
Je vous ai bien lu, alors. C'est quoi l'intelligence de Poe? Où est-ce qu'elle se déploie le mieux?
J'appelle ça la structuration de l'espace imaginaire. On peut prendre l'exemple du maelstrom, descendre dans le maelstrom. Vous savez qu'en mathématiques, le vortex se définit comme une spirale, et le point qui parcourt la spirale, sa vitesse s'accentue au fur et à mesure qu'il approche du centre. S'il arrivait au centre, la vitesse serait infinie. En physique, c'est impossible, il n'y a pas de vortex qui existe en physique. Par contre, en mathématiques, il suffit de le dire, on arrive à une formule mathématique possible. On a déjà parlé, le point suit une règle, mais le point qui ne peut pas attendre au centre, qui quand même donne la règle, s'appelle une singularité en mathématiques. Mmh. Et chez Poe, c'est exactement ce qu'il fait avec sa descente dans le maelstrom, à la pointe du maelstrom. Dans les textes, dans ces textes sources, essentiellement dans l'Encyclopédia Britannica, le fond du tourbillon s'écrase sur des rochers. Donc là, on retombe sur une autre chose. Hein, on peut continuer. Jules Verne va reprendre l'image de Poe pour, je crois que c'est à la fin de 20 milieux sous les mers, pareil, il remet un fond de rocher. Mais chez Poe, non. Chez Poe, ce sont les murs liquides qui s'écrasent sur eux-mêmes en leur centre. C'est-à-dire, c'est complètement du structuralisme. Le tout est plus que la partie. Mmh. Et c'est cette structuration de l'espace imaginaire qui me paraît fascinant et que je crois que personne d'autre auteur a fait avec cette conscience liée au côté d'une capacité de créer une fiction. Parce qu'après, on le retrouve chez des auteurs, mais franchement, philosophes, critiques.
Donc ça, c'est la structuration de l'espace imaginaire. Et puis, il y a peut-être un lien ici à trouver avec sa pensée de l'espace, où se situent les étoiles.
C'est le même, oui.
Quand il était enfant, on lui a offert un télescope, oui. Et lui-même était fasciné, et même plus que fasciné, c'est-à-dire qu'il avait acquis une certaine intuition de ce qu'était réellement l'univers, puisqu'on on l'a raconté hier, qu'il avait eu l'intuition du Big Bang. Donc, il pense l'espace littéraire, si l'on peut dire, enfin l'espace du conte, l'espace de l'imaginaire, comme il pense l'espace des étoiles, vous diriez ça ?
Tout à fait, tout à fait. Il pense que c'est l'espace qui définit l'humain, et que l'humain, il a pas, bon, il y a le biologique, il y a tout ce qu'on connaît, tous nos soucis, tous nos, etc. Mais fondamentalement, on est dans un espace qu'on pourrait appeler de Pascal aussi, les extrêmes se touchent, ce que j'appelle le centre infini. Bon, on a cette capacité. Dans Eureka, Poe dit dans toutes les langues, il y a le mot de Dieu. On a utilisé ce mot-là pour exprimer quelque chose qu'on peut pas atteindre, mais une pensée qu'on peut pas vraiment penser, mais qu'on se rend compte que c'est quelque part par là. Ça définit peut-être même l'humain, sans pouvoir être atteint, jamais atteint. Mais cette impossibilité à l'atteindre ne doit pas nous empêcher d'essayer. Et il définit sa propre aventure littéraire et finalement un peu scientifique, il dit, le but est impossible, mais si on est sérieux avec soi-même, on doit se leurrer au point de croire que c'est possible.
Pourquoi c'est être sérieux avec soi-même que de se leurrer ?
Comment ?
Pourquoi est-ce que c'est être sérieux avec soi-même que de se leurrer ?
Parce que c'est viser le seul vrai but, à savoir l'impossible.
Mmh. Est-ce que ça fait de lui un croyant ?
Non, ça fait de lui un... Quelqu'un qui est dans... Non, il n'est pas croyant, parce que tout au moins au sens chrétien, parce qu'être croyant, ça supposerait avoir un dialogue avec Dieu. On retrouverait une structure autrui. Lévinas, ou... Ouais. Lui est dans la structure soi. Il est dans le « je suis » des romantiques, éventuellement du Dieu de la Bible, mais voilà. À la fin, il dit il n'y a qu'une solution pour chacun, c'est d'être Dieu soi-même.
Oui. L'institution religion, ça, il la rejette totalement. L'Église, par exemple, l'Église, c'est quelque chose qu'il rejette totalement. Pour lui, Dieu est en lui-même, il est aussi dans l'univers, mais il ne peut pas s'incarner, comme
surtout,
ce serait le cas peut-être pour Baudelaire.
Je crois surtout qu'il n'en parle pas. Il n'en parle pas.
Alors, vous racontez un petit peu aussi dans votre livre comment finalement l'univers est une intrigue. L'univers est une intrigue pour Edgar Poe et comment c'est par l'univers de ses livres, donc c'est très très subtil ce que vous expliquez là, qu'il fait avancer l'intrigue à l'intérieur de ces contes. C'est pas tellement les personnages qui font avancer l'intrigue, c'est l'univers même qui pose des questions. Et c'est ça qui crée du suspense, finalement. C'est l'étrangeté de l'univers de Poe. Je ne sais pas si je vous ai bien lu, j'espère que c'est un petit peu ce que vous dites quand même.
Oui, là, vous m'envoyez une image de quelque chose de très ambitieux. Je ne sais pas si j'ai tout à fait dit ça, mais c'est vrai que...
C'est comme Poe, on ne peut pas vraiment le comprendre.
Il faut c'est, vrai que, les... c'est vrai qu'il a constamment travaillé à la structuration de cet espace imaginaire. Donc, il part de, par exemple, ce conte « Silence ». Où le paysage est simplement une sorte de vide silencieux. Et on peut dire que c'est en fin de carrière, ce même vide silencieux qu'il a peuplé avec les étoiles, avec le cosmos newtonien, etc., qu'il a essayé de faire fonctionner selon les mêmes règles sur lesquelles il fallait fonctionner. Il a fait fonctionner toute sa fiction.
Vous avez dit aussi, enfin vous l'avez écrit à la fin de votre livre, vous avez dit « Poe est épuisant ». Ça veut dire quoi ça, « Poe est épuisant »
Ben, nos auditeurs vont comprendre.
Ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus.
Ben, c'est-à-dire c'est un monde sévère d'une certaine façon. Enfin, c'est à la fois exaltant, électrisant, mais on ne peut pas vivre complètement sous électricité, vous voyez. On a besoin de temps en temps de simplement prendre un pot avec un copain, etc. Et ça, Poe, il ne peut pas.
Mais vous avez l'air d'avoir bien vécu, finalement, en explorant Poe dans tous les sens. Vous n'avez pas l'air trop fatigué, quand même.
Bah, ça vient. Mais j'imagine que j'avais un petit quelque chose qui fait que je me suis accroché à Poe. Ça n'a pas été, j'ai pas choisi Poe au départ pour lui-même. J'ai cherché, quand je suis arrivé dans l'enseignement supérieur, à comprendre ce qu'était la nature de la poésie. Vous voyez, j'avais une question intellectuelle sur qu'est-ce que c'est que la poésie. Et puis j'ai été vers T.S. Eliot, j'ai tourné un petit peu. Et puis j'ai eu à enseigner les contes de Poe. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Il a tout fait, j'ai plus qu'à le montrer. Vous voyez, donc voilà.
Merci Henri Justin.
Pour aller plus loin, je recommande donc votre ouvrage « Avec Poe jusqu'au bout de la prose » publié en 2009 chez Gallimard dans la bibliothèque des idées. Vous avez également traduit en 2016 pour Classique Garnier des contes policiers d'Edgar Poe. Cette émission n'aurait pu avoir lieu sans le concours de Didier Pinot, Vanessa Prévost, Laurence Malonda, Stéphanie Vélin, Laurent Travaglichanal et Alice Seyed. On se retrouve demain pour une troisième émission Poesque. Ce sera avec Thierry Gilibeuf qui lui aussi a retraduit Poe après Baudelaire avec Christian Garcin.